Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique, que vous pouvez également écouter en podcast. Le domaine spatial connaît d'importantes transformations quantitatives et qualitatives. On n'a jamais eu autant de satellites en orbite et les lancements spatiaux connaissent une accélération sans précédent. Au-delà, on assiste à des changements profonds politiques et technologiques. De nouveaux industriels ont investi le secteur spatial et y ont investi. Et certains d'entre eux prennent aujourd'hui un véritable rôle politique. Le phénomène est également plus profond avec cette nouvelle manière qu'ont les principales puissances spatiales d'habiter l'espace. C'est le cas pour les gigantesques infrastructures satellitaires que des acteurs privés superpuissants commencent à déployer et qui témoignent d'une tendance grandissante à l'industrialisation. Il y a aussi des programmes d'exploration habitée de retour sur la Lune ou sur Mars qui visent une expansion durable et ajoutent à l'effervescence d'un tissu industriel en pleine recomposition. L'activité militaire n'est pas en reste, qui connaît une forte intensification. Les États dominants transforment leur manière d'agir et contribuent à modifier la donne. Quelles conséquences sur les règles du jeu spatial? En quoi les équilibres mondiaux sont-ils bouleversés? Xavier Pascaud est notre invité, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste mondial des questions spatiales, civiles et militaires, membre élu de l'Académie internationale d'astronautique. Son dernier livre, La ruée vers l'espace, nouveaux enjeux géopolitiques, aux éditions Talendier. Xavier Pascaud, bonjour.
Bonjour.
Xavier Pascaud, l'espace connaît d'importantes secousses depuis l'élection de Donald Trump et l'influence grandissante d'Elon Musk. Le patron de Starlink et SpaceX a été appelé à avoir des responsabilités au sein du gouvernement américain. Est-ce parce que Elon Musk est très riche ou cela nous dit-il quelque chose de la place des questions spatiales dans les préoccupations des gouvernements et en l'occurrence le gouvernement américain ?
Oui, effectivement, la question se pose. Hein, c'est un peu inédit, cette formule, avec un de ces milliardaires de la tech. Alors, c'est un peu tout ça, je dirais. C'est-à-dire qu'à la fois, il est très riche et je pense que dans la relation avec Trump, c'est quelque chose qui compte. Il a été souvent donné en exemple aussi d'une sorte de régénération du système avec, d'un côté, l'efficacité supposée de SpaceX, son entreprise, comparée à la NASA, par exemple, qui a souffert de cette comparaison. Il y a eu tout un débat politique autour de ça. Et puis, Elon Musk, c'est aussi autre chose. Vous avez évoqué le fait qu'on habitait l'espace différemment. C'est une manière d'approcher les questions spatiales différemment, sur la base d'une forme d'industrialisation liée à la tech. Hein, c'est vraiment le rapprochement de l'espace et des technologies de l'information. Et ça, c'est quelque chose qui fait un peu consensus aux États-Unis aujourd'hui. L'espace, c'est un nouveau levier finalement de pouvoir à travers cette maîtrise du monde de l'information et l'utilisation de l'espace pour encore consolider cette maîtrise. Donc on est dans une espèce de situation un peu composite où on a à la fois des intérêts très tactiques liés vraiment à cette administration Trump et puis où ça s'inscrit quand même dans une tendance lourde.
Alors SpaceX, en tout cas, c'est un succès incroyable. La société a été créée en 2002, un lancement réussi en 2008 qui lui ouvre les portes de la NASA. Et alors justement, la NASA, avec Trump à la Maison Blanche depuis le 20 janvier dernier, elle n'échappe pas à la vague de licenciements lancée par Trump et Musk dans les administrations américaines. Qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que l'on sait des intentions de la nouvelle administration ?
Alors, c'est vrai que c'est une situation un peu paradoxale parce que on le sait très bien, la NASA a vraiment porté SpaceX sur les fonts baptismaux, si j'ose dire. Et la NASA, il faut le savoir, a dépensé des milliards de dollars. Alors, de contrats qui ne sont pas nécessairement des subventions, mais qui sont des contrats pour désormais acheter un service à ces industriels, à ces nouveaux industriels. Avant, la NASA achetait des fusées et puis les utilisait, faisait le cahier des charges. L'industriel, alors Boeing par exemple, eh bien construisait la fusée et donnait les clés de la fusée à la NASA, si j'ose dire, qu'il la lançait. Désormais, on lui a dit non, vous faites plus ça. Vous allez dire, ben voilà, je vais acheter un transport d'astronautes vers la station spatiale. Alors je vais en acheter 10, 12, 20 et vous ferez la fusée que vous voudrez. Moi, ce que je veux, c'est le service. Donc la NASA, depuis 2006 à peu près, hein, c'est quelque chose qui s'inscrit au-delà, je dirais, de l'ère Trump. C'est vraiment réformé pour ça. Eh bien, en fait, ça a effectivement donner à ces acteurs beaucoup plus de pouvoir et désormais on voit l'expression politique de ce pouvoir se retourner un petit peu contre la NASA. Alors effectivement, on a aussi dans les licenciements que vous citez, eh bien le phénomène anti-science, enfin la tendance anti-science de ce gouvernement américain actuel qui vraiment fait la chasse en fait en réalité aux scientifiques qui s'intéressent au climat, au suivi de l'environnement, etc. Et on voit bien que là, la NASA va avoir, alors la proposition de budget qui est faite là par l'administration américaine, c'est de diminuer de 50 voire presque 70% le budget scientifique de la NASA. Bon, il y a une levée de bouclier en ce moment, mais on voit bien qu'il y a un combat là, idéologique.
Alors justement, et on reste avec la NASA qui s'apprête à être dirigée par Jared Isaacman, le premier astronaute privé à avoir réalisé une sortie dans l'espace en septembre 2024 sur un vaisseau de Monsieur Musk. Donc c'est un proche d'Elon Musk qui va devenir administrateur de la NASA. Ça dit beaucoup en prolongement de ce que vous venez de nous développer.
Ça dit beaucoup. Si on fait la biographie des administrateurs qui se sont succédés, là c'est inédit. C'est quelqu'un qui n'est pas du sérail, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a commencé à faire fortune, là encore un peu dans le domaine de la tech, et puis qui a eu une société où il prêtait des capacités aux militaires, etc. Donc il louait des capacités. Et puis, qui a effectivement, avec Musk, conduit cette activité. Alors un peu inédite aussi, c'est la première fois que des humains allaient finalement. C'était plus la station spatiale, c'était autre chose, à une autre altitude. Il a fait une sortie extravéhiculaire, comme on dit, dans l'espace, à des endroits où jamais aucun autre astronaute était allé. Ce qu'on voit aussi à travers ça, c'est le changement de fond qui s'est opéré dans le paysage spatial américain, pour le coup, et administratif, politique au passage. Là où on avait finalement, ces dernières décennies, finalement, vous aviez seulement une entité qui pouvait avoir à la fois des capacités et des objectifs. Ça s'appelait une agence spatiale. Et avec la montée en puissance de SpaceX, on a eu une autre entité industrielle qui a effectivement, elle aussi, des capacités et ses propres objectifs. Et d'une certaine manière, le fait d'avoir Isaacman qui soit allé voir SpaceX pour faire son projet spatial, son projet et son tour de la Terre comme astronaute, ça n'a fait que consolider cette idée que finalement, il peut y avoir une agence spatiale, mais il peut y avoir un industriel qui tient le rôle d'une agence spatiale. Et maintenant, on est dans la situation, cet industriel qui a un petit peu conforté cette idée que SpaceX était assez indépendante finalement dans ses choix et dans ses choix stratégiques, lui, et ça c'est un peu un retour de l'histoire, une ironie de l'histoire, devient lui-même directeur de la NASA. Alors, ça veut dire que profondément, finalement, le rapport entre la puissance publique et ses acteurs privés s'est transformé de manière assez impressionnante avec, en termes de légitimité, finalement, autant de légitimité confiée à la puissance publique, finalement, à travers une agence spatiale, qu'au secteur privé, à travers une société comme SpaceX. Et donc, en ayant Isaacman, qui vient de SpaceX, entre guillemets, du monde SpaceX, mis à la NASA, on a en fait mis sur un pied d'égalité, au plan institutionnel, en réalité, une agence spatiale, la puissance publique, gouvernementale, et une société privée qui, elle, a ses propres déterminants. Et ça en dit long sur les modifications, les transformations de la société américaine aujourd'hui.
C'est-à-dire, concrètement ?
Eh bien, concrètement, aujourd'hui, on peut imaginer qu'au Congrès, alors il y a déjà eu des débats là-dessus, quand il s'agit d'allouer des budgets, par exemple, on peut se dire, mais pourquoi je les allouerais à la NASA, alors qu'on a une société comme SpaceX qui pourrait me rendre le même service pour beaucoup moins cher. Et donc, il y a eu des débats là-dessus, en disant, mais est-ce qu'on a besoin d'une NASA au bout du compte ?
J'allais vous poser la question.
Mais voilà, alors, on en est plein. Ça, c'est un débat qui a eu lieu il y a quelques années, et qui a été tranché, enfin, tout au moins temporairement, vu des sénateurs et des parlementaires. Il ne s'agit pas, évidemment, de se priver d'un outil qui reste un outil fédéral, qui a aussi un rôle de politique industrielle, qui est inséré dans le dispositif gouvernemental. Mais le fait que la question ait été posée est intéressant d'un point de vue, je dirais du point de vue du sociologue politique qui regarde un peu les transformations de fond de la société américaine. En fait, l'espace, le secteur spatial, dans ces transformations, en dit beaucoup sur les transformations de fond de la société américaine elle-même.
En tout cas, il y a encore un peu de sagesse aux États-Unis avec cette volonté de conserver l'agence qu'est la NASA par rapport au privé.
Alors oui, mais un autre exemple de la mise en cause de l'agence, alors qui reste effectivement et qui restera, on peut le parier, un peu la cheville ouvrière du programme spatial américain, mais vous avez par exemple le programme de retour sur la Lune avec Artemis. Eh bien aujourd'hui, Musk, le premier, critique ce programme en disant, en fait, retourner sur la Lune avec une grosse fusée qui est donc ce qu'on appelle le Space Launch System, qui est la fusée qui a été construite par Boeing à grands frais, à vrai dire, pour la NASA depuis des années, qui a connu des surcoûts, etc., etc., et qui va coûter entre 2 et 4 milliards par tir, avec un véhicule qui s'appelle Orion, qui va transporter les astronautes dans le voisinage de la Lune, eh bien, Musk dit, cette partie du programme, on pourrait en fait s'en débarrasser, en réalité, parce que moi, avec ma fusée,
je sais faire.
Starship, je saurais le faire. Alors, en fait, on sait qu'il ne sait pas le faire parce que cette fusée connaît énormément de retard et de problèmes techniques en réalité. Donc, il essaye de mettre ça un peu sous le tapis. Mais on voit bien qu'il est encore dans une logique de concurrence frontale avec le dispositif fédéral. Et d'une certaine manière, cette remise en cause, on n'est pas sûr du tout qu'Artemis, donc ce programme de retour sur la Lune, qui a été décidé par Trump, numéro un, j'allais dire, pour faire désormais des installations lunaires dans lesquelles les astronautes passeront du temps, etc. Eh bien, on n'est pas du tout sûr que cette mission Artemis, la première qui doit envoyer les astronautes sur la Lune, utilise les moyens de la NASA. On est aujourd'hui dans l'expectative pour savoir si ce gros lanceur fait par Boeing, etc., une espèce de super Saturn V qui avait été utilisé pour Apollo, eh bien, on n'est pas du tout sûr que cette fusée va rester, puisque, en fait, elle est citée en exemple par l'administration de la gabegie fédérale. Et le problème, c'est que la NASA maîtrise la sécurité, maîtrise la fiabilité, etc. C'est des choses qui coûtent très cher. Et le problème quand même qui subsiste chez Musk, c'est son espèce de d'attrait pour, on va dire, le test permanent. La fiabilité, c'est quelque chose qui, on le voit bien avec Starship, reste bien très très hypothétique chez Musk.
Alors, gabegie générale, en tout cas, de
dénoncé,
l'argent.
Oui. Voilà, dénoncé par Musk.
De l'argent, il y en a absolument énormément hein, dans le spatial. On l'évoquera. Xavier Pascaud. Il y a trois mots qui semblent résumer l'espace aujourd'hui. On reviendra sur la Lune, on reviendra sur Mars dans l'émission, pas le fait d'y repartir tout de suite. Contester, congestionner et concurrentiel. En quoi ces trois mots résument-ils l'espace aujourd'hui ?
Alors voilà, ces trois mots ont été vraiment, imposés dans le discours, dans les débats internationaux par la partie américaine, hein, le plus souvent. Contested and competitive. Et c'est vraiment l'idée que, eh bien, dans tous les secteurs du domaine spatial, on va avoir des concurrences, on va jouer des coudes un peu en orbite parce qu'il va y avoir de plus en plus de monde, on voit ces constellations, etc. Et on va être en affrontement possible, en situation antagoniste. Donc ça, c'est un peu l'idée qui est, depuis plusieurs années maintenant, un peu l'idée générale qui veut démontrer que le secteur spatial, finalement, devient un environnement comme un autre, dans lequel à la fois les coopérations, mais aussi les compétitions, les concurrences, les rapports de force, les rapports de domination vont s'exercer. C'est cette idée que l'espace est passé dans une nouvelle ère avec, finalement, on passe d'un espace qui aurait été sanctuarisé, alors ce qui était d'une certaine manière assez vrai au moment de la guerre froide, parce que eh bien, là, on avait deux superpuissances qui s'équilibraient et qui n'avaient pas intérêt à faire de l'espace un environnement où s'opérerait une course aux armements, parce qu'il ne s'agissait pas de se détruire des satellites qui garantissaient la dissuasion mutuelle, en réalité. Mmh. On avait besoin des satellites d'observation pour s'observer et pour faire fonctionner cette dissuasion mutuelle qui garantissait cet équilibre. À partir du moment, on va dire, dans les années 90, où l'espace, les satellites deviennent utilisés pour d'autres choses, et en particulier pour conduire des opérations militaires plus conventionnelles. C'est-à-dire qu'on va, notamment à la faveur de la première guerre du Golfe, hein, on va découvrir que les satellites peuvent vraiment apporter un plus. Les Américains vont le découvrir, en tout cas ils le savaient, mais ils vont se rendre compte que les anciens satellites qu'ils avaient faits pour surveiller les silos de missiles soviétiques, eh bien ça ne suffit pas, il en faut d'autres pour suivre un pick-up, etc., etc. À partir de là, l'espace prend pied dans l'affrontement militaire, conceptuellement, et donc devient ipso facto une cible. Quelque chose qui va devoir être protégé contre des attaques. Parce que, et là, on quitte l'espace sanctuarisé, en quelque sorte, pour passer dans l'espace contesté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va teinter toutes les années 90, années 2000, et on voit aujourd'hui le résultat, avec effectivement une incapacité, par exemple, on peut citer cet exemple-là, de se mettre d'accord au plan international sur la sécurité collective dans l'espace. C'est quelque chose qui est bloqué depuis 2008, à peu près, parce que les Chinois et les Russes voudraient un traité là-dessus, les Américains et les Européens sont plutôt favorables à un code de conduite. Et donc, on a quelque chose qui commence à se tendre, et ça vient de cette époque. Là encore, on habite l'espace différemment d'un point de vue militaire.
On habite l'espace différemment. On abordera bien sûr les questions et le domaine militaire. Dans quelques instants, ce sera davantage pour commencer sur les satellites d'observation que vous nous expliquiez. D'abord, ce changement d'orbite qui me paraît très intéressant et qui a permis justement cette multiplication et ce projet absolument fascinant dans quelques instants.
Tomber du ciel à travers les nuages. Quel représage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air. Du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges, du paradis originel, tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël,
tombée du ciel de Jacques Higelin. On vous retrouve, Xavier Pascaud, autour de votre livre La ruée vers l'espace, nouveaux enjeux géopolitiques. Vous le disiez précédemment, l'espace, un environnement comme un autre. Est-ce que c'est en particulier ce qui le distingue aussi de l'espace maritime ? Je veux dire par là, il y a des comparaisons qui peuvent être faites entre les deux. Et d'après vous, il y a des similitudes et puis de grosses différences.
Voilà, tout à fait. Alors les comparaisons sont faites depuis longtemps. C'est des espaces un peu... peu régulé finalement, la haute mer par exemple pour le maritime, l'espace depuis 67 c'est un espace dont on sait, l'espace extra-atmosphérique, qu'on ne peut pas se l'approprier, il y a un principe de non-appropriation de l'espace, donc de non-territorialisation quelque part. Alors les Américains disent oui mais on est d'accord avec ça, mais nous on ne considère pas que ce soit un bien commun par exemple, c'est-à-dire qu'ils estiment pouvoir y faire des choses sans qu'il y ait un accord collectif pour les faire. En revanche, effectivement ce principe de non-appropriation existe et pour le maritime on est un peu dans les mêmes choses. Alors après, il faut effectivement toujours se méfier un peu de ces analogies. Le maritime, on avait historiquement, finalement, une dynamique qui était aussi très guidée par les intérêts commerciaux. C'est-à-dire qu'on faisait du commerce d'un point A à un point B. Donc, on transportait des choses. Donc, ça a très vite structuré un petit peu la vie maritime. Dans l'espace, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne va pas d'un point A à un point B. Alors, c'est ça qui est intéressant. Alors, et l'espace, par rapport au maritime, la deuxième chose, évidemment, essentielle, c'est que d'un point de vue physique, c'est très compliqué. C'est un milieu extrêmement hostile. Hein. C'est un milieu hostile à l'humain, fondamentalement. Et c'est un milieu où vous êtes soumis à la dictature des lois de la physique. C'est-à-dire qu'on n'y fait pas de manœuvre, ou très difficilement, on n'a pas toute cette agilité, etc. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, et j'ai le sentiment qu'on essaye d'habiter l'espace différemment, donc on essaye de le tirer vers nous. On a fait des progrès technologiques. Par exemple, on va faire des satellites qui vont manœuvrer un peu plus, qui vont être un peu plus autonomes en orbite. Donc, on va commencer à avoir une vision un peu plus d'infrastructure, une vision un peu plus logistique des choses. C'est très lent. La contrainte physique est encore très forte. Mais c'est vrai qu'en faisant ça, on se donne un peu plus de degrés de liberté et on commence à penser un petit peu les rapports humains, un petit peu comme pour le maritime, effectivement, où on va avoir peut-être des concurrences, des routes qui vont s'établir, etc., des choses comme ça. Donc ça, pour l'instant, c'est en devenir, j'allais dire. Donc on n'y est pas. Et fondamentalement, je pense que historiquement, on n'est pas dans les mêmes dynamiques. Si vraiment on faisait, mais ça reste très, très... hypothétique, des exploitations minières, par exemple, dans l'espace. On parle beaucoup d'exploitation de ressources extraterrestres. Alors là, on pourrait commencer à y voir, effectivement, une similitude avec des sites d'exploitation, des sites de commercialisation. On ramènerait ça sur Terre, etc. C'était comme pour la navette spatiale. On avait cette idée que la navette, ce serait finalement une sorte de carferie, quelque part, qui irait d'un point A, la Terre, à un point B, la station spatiale. Sauf que quand la navette a été finalement décidée en 72, il n'y avait plus de station spatiale parce qu'on ne voulait plus faire ça. Les Américains appelaient ça le taxi for nowhere. C'était vraiment cette idée. Mais il y a toujours cette idée que l'espace, on va l'habiter, on va le territorialiser, on va y construire des rapports sur la base en fait, de ceux qui existent sur Terre. Un ancien directeur de l'ESA disait, finalement, on est en train de faire gonfler de l'Agence spatiale européenne, absolument. On est en train de gonfler le diamètre de la Terre et finalement, on exporte dans l'espace tout ce qui est bien, négatif, positif, que nous faisons sur Terre. Alors, c'est conceptuellement intéressant. Ça reste encore, quelque chose en devenir. On n'est pas tout à fait sûr. L'espace restera de toute façon très compliqué à habiter.
On y reviendra avec le projet déjà lunaire. Mais en tout cas, j'aime bien cette expression. On gonfle le diamètre de la Terre avec l'espace. Alors, il y a depuis quelques années, Xavier Pascaud, une explosion sans précédent des satellites. J'en reviens à lui, Elon Musk, à 83% de la masse satellisée dans le monde. Et on projette pour 2030 d'avoir 100 000 satellites en orbite. Alors, là où Elon Musk a révolutionné, je parle sous votre contrôle bien évidemment, les choses, c'est que les mises en orbite aujourd'hui se font entre 500 km et 1200, alors qu'avant il fallait 36 000.
C'est ça.
Alors, je pense qu'à 36 000, il y a toujours, mais donc ça a été une vraie révolution.
Ça, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que, historiquement, pour les télécommunications dans l'espace, on utilisait cette altitude de 36 000 km parce que quand vous placez un objet à cette altitude, il est synchrone avec la rotation terrestre. C'est comme si vous aviez une gigantesque antenne avec un émetteur. En fait, on ne faisait pas de télécommunication, on faisait de la diffusion. Diffusion de radio, diffusion de télévision, par exemple, avec un satellite qui est constamment au-dessus de vous et qui va diffuser des émissions. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec les gens qui reçoivent ça avec des paraboles. Ce qui a changé. Et ça, c'est dans les dernières années, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on ne va pas consommer la télévision de la même façon. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de consommateurs de télévision par le biais de l'Internet. Et le biais de l'Internet, là, ne va pas se satisfaire de satellites situés à 36 000 km qui vont avoir un peu de latence, comme on dit. Et donc, alors qu'on ne savait pas le faire il y a 20 ans, eh bien, avec des satellites aujourd'hui qu'on appelle défilants en orbite basse, eh bien, on peut créer un maillage qui va en fait virtuellement vous connecter en permanence à des satellites beaucoup plus proches qui vont permettre non pas de la télécommunication mais de la connectivité. En fait, ces satellites-là, c'est lié à l'Internet, c'est lié à l'essor de l'Internet. Ce qu'il faut dire, c'est que dans les années 90, on a pressenti ça. Et notamment, quelqu'un comme Bill Gates, toujours patron de Microsoft, avait proposé une constellation de 640 satellites, là, on n'était pas sur des milliers, qui s'appelait Teledesic, avec l'idée de faire de la téléphonie, essentiellement. Bon, sauf que ça a été directement en concurrence avec les GSM, avec les téléphones cellulaires terrestres, et ça n'a pas survécu, finalement. Il y a eu quelques... Alcatel aussi a un projet de ce type, dans les années 90. Et quand Musk est arrivé avec son projet à lui, donc des années plus tard, tout le monde a dit, non mais ça... c'est quelque chose qui ne va pas tenir la route face au réseau terrestre, etc. Sauf qu'il y a deux choses qui ont changé. D'abord, les technologies ont changé. On arrive mieux aujourd'hui à correspondre avec des satellites qui défilent. Et puis, surtout, la consommation de l'Internet a changé. L'Internet des années 90, 91, 92, ce n'est pas du tout l'Internet des années 2025. Aujourd'hui, la consommation se fait, et notamment pour la télévision et pour le streaming, etc. Et là, du coup, le business case est arrivé, si j'ose dire, le modèle économique... Alors, c'est imposé, en tout cas, est apparu comme suffisamment solide pour justifier, cette fois-ci, que ces constellations se développent. Et surtout, ça intéresse les gouvernements, et notamment les militaires aussi, qui vont commencer à être des clients de ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'essentiel de l'argent qui circule pour sortir ces constellations, ça reste de l'argent public, mais avec des usages qui ont complètement changé.
Alors, multiplication des satellites, et parce que explosion d'Internet, je pensais tout de même que la question des câbles sous-marins était numéro un en termes d'échanges, de communication. Donc finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec une sorte de concurrence entre l'espace et le sous-marin. On en revient...
Bien sûr. Les flux Internet, c'est d'abord les câbles sous-marins de très très loin. Hein. On est dans des proportions de plus de 90% par les câbles. Ce qu'il faut voir, c'est que ces acteurs nouveaux... Alors, il n'y en aura pas des centaines d'acteurs du spatial, de la connectivité spatiale. Mais ceux qui réussiront à survivre, eux, ils ne se vivent pas en concurrence. Ils se vivent en complémentarité. Et d'ailleurs, on peut se poser la question... à échéance de 5 ou 10 ans, de savoir si Starlink, par exemple, qui est la constellation d'Elon Musk, et donc qui est la société parente de SpaceX pour gérer cette constellation, sera un acteur spatial ou ça sera juste un acteur des télécoms. Ce qui est frappant dans l'arrivée de ces industriels de la tech, qui sont des industriels qui viennent de l'extérieur de la communauté spatiale, c'est qu'ils ne romantisent pas le spatial, ils l'industrialisent. Et de leur point de vue, c'est pas spatial ce qu'ils font, c'est juste de... un réseau supplémentaire de télécom. Il se trouve qu'ils le mettent dans l'espace. Mais pour eux, c'est de la fibre dans l'espace. Et je pourrais vous citer plein d'exemples où Musk montre ça très très bien. C'est-à-dire qu'il le montre, en tout cas, il montre qu'il est sensible à ça et que c'est la manière qu'il a d'approcher ça. Jeff Bezos, par exemple, de la même manière, qui est son concurrent, oui, qui veut aussi avoir son propre réseau de satellites et qui veut... Eh bien, c'est quelqu'un qui ne conçoit pas d'avoir son réseau de satellites, qui s'appelle Kuiper, qui est très en retard sur Starlink, sans le considérer... isolément d'Amazon Web Service. C'est quelqu'un qui veut relier ce réseau au cloud mondial. Et donc, les grands acteurs du cloud aujourd'hui, parce que les technologies spatiales sont devenues moins coûteuses, ont décidé d'inclure ces réseaux spatiaux dans leurs réseaux mondiaux. Donc, on banalise l'espace, en fait. On le désinsularise, on le désingularise par le biais de l'industrialisation. Et là, d'un point de vue culturel, d'ailleurs, le rapport à l'espace, presque, j'allais dire, d'une manière anthropologique, est en train de changer. On ne voit plus l'espace de la même façon, où il y avait ce caractère un peu inaccessible, presque un peu sacré finalement. C'était l'espace des dieux finalement. Et bien là, l'industrialisation en fait un espace. En tout cas, c'est comme ça qu'on veut le vendre, parce qu'on le vend aux investisseurs aussi. Donc on veut le vendre comme juste un élément de réseau. Et donc Starlink, à mon avis, je ne serais pas surpris que les communications institutionnelles de tous ces acteurs deviennent essentiellement des communications qui portent sur la connectivité avant de porter sur l'espace.
Connectivité avant tout, en tout cas, il n'y a plus cette notion non plus de frontières vis-à-vis de l'espace. Alors tout de même, et je le disais tout à l'heure, en 2030, 100 000 satellites en orbite, est-ce que c'est raisonnable ?
Alors non, on va vous dire non. Alors, on est effectivement sur ce chiffre de 100 000 qui est un chiffre un peu théorique. On estime qu'effectivement, à échéance de 5 à 10 ans, on pourrait avoir de 50 à 100 000 satellites en orbite. si on prend tous les projets qui ont été enregistrés, etc. Il y a des projets qui cesseront d'exister, mais enfin, on aura quand même des dizaines de milliers de satellites. Starlink tout seul, d'ailleurs, prévoit 42 000 satellites à terme. La difficulté, il y en a deux. Il y a d'abord le problème de la coexistence de ces systèmes dans l'espace. Et là encore, la physique spatiale fait que eh bien, les objets peuvent entrer en collision et c'est très difficile de manœuvrer pour éviter ces collisions. D'abord pour les repérer, pour les détecter à temps et avoir le bon geste au bon moment. Et puis, la deuxième difficulté, c'est la coexistence des fréquences. Ce qu'on sait aujourd'hui, ou ce qu'on ne sait pas en tout cas, c'est comment ces systèmes vont coexister pour ne pas se brouiller entre eux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Alors que ces acteurs de la tech se font fort, si vous voulez, de traiter en disant non, ce ne sera pas un problème, etc. Mais on voit bien qu'il va falloir une gouvernance mondiale. Et là, on rentre dans le champ du politique. Et là, ça devient très compliqué parce que vous avez à la fois des forces économiques qui sont très fortes, sous-tendues par la tech derrière, et puis la prétention de grands acteurs politiques, comme par exemple la Commission européenne, mais d'autres pays, pour dire mais qui êtes-vous pour décider des normes qui vont s'appliquer ? Par exemple, la Chine aujourd'hui est extrêmement critique du fait que les États-Unis seraient finalement, alors soit par le biais de leurs acteurs privés, soit par le biais de leur gouvernement, puisqu'en fait ça deviendrait une norme nationalement appliquée, seraient ceux qui décident de quelles sont les zones où il faut s'alerter, où il faut se prévenir, où il faut ne pas se prévenir, etc. Ils veulent participer parce qu'eux aussi, alors il faut le savoir, au passage, la Chine a deux projets, peut-être trois, de 12 000 satellites chacun pour faire exactement la même chose de la connectivité Internet avec les grands acteurs, Alibaba, etc. Donc, on voit bien que là, c'est de la politique et c'est du rapport de force nouveau qui se met en place.
Alors, la question de la gouvernance, elle est évidemment très importante. On reviendra sur la Chine ultérieurement. Xavier Pascaut, SpaceX, je le redisais, Musk, c'est 83% de la masse satellite dans le monde. C'est quand même beaucoup. Finalement, SpaceX, c'est le futur contrôleur en chef avec Starlink de tout ça. Je veux dire, la gouvernance, c'est déjà une gouvernance unipolaire américaine.
Alors, c'est un peu la critique hein, qui est adressée à SpaceX et au système tel qu'il fonctionne en général, c'est que c'est un peu le Far West, quoi. Le premier arrivé fait les règles. Moi, j'ai eu un échange avec un juriste qui travaille pour Jeff Bezos, par exemple, qui me disait, vous savez, c'est pas le droit romain qui va s'appliquer dans l'espace, c'est le droit coutumier. Et ce droit coutumier va être basé sur les best practices, comme ils disent. C'est-à-dire qu'on va, nous, on a les mains dans le cambouis. C'est un peu leur excuse. Hein. C'est de dire, mais nous, on fait des choses. On a besoin d'encadrement réglementaire. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Finalement, l'espace manifeste l'existence de deux planètes, j'allais dire, différentes. La planète américaine, qui a une espèce de suractivité spatiale, comme ça, qui lance des milliers de satellites pour faire quoi, on ne sait pas trop, mais voilà, qui s'investit là-dedans. Et puis, le reste du monde. Alors, la Chine est quand même, on voit bien, attiré aussi par ce modèle, on voit bien. Et puis le reste du monde, qui lui, voit pas du tout les usages de l'espace de la même façon. Et à partir du moment où vous allez devoir décider d'une gouvernance internationale, parce qu'on est tous interdépendants dans l'espace, et ça les Américains le savent très bien, et ils le sont particulièrement parce qu'eux, ils ont beaucoup de satellites. Donc si un acteur se met à se comporter de manière dangereuse, risquée, voire crée des catastrophes, tout le monde en paye le prix. Donc on est bien obligé d'interagir, et d'être en interaction, et donc de négocier. Mais évidemment, c'est très très compliqué, parce que, j'allais dire littéralement, les points de vue sont différents. Et donc on a aujourd'hui, par exemple, typiquement sur ces problèmes de ce qu'on appelle la gestion du trafic spatial, donc le Space Traffic Management en anglais, qui est une grande question en ce moment qui agite les diplomaties, qui va écrire les règles ? Et la Chine là est très active en disant, eh bien moi je veux avoir certains principes et je veux que ces principes soient, et les Américains ont d'autres principes, enfin, voilà. Donc on est vraiment là-dedans.
Alors justement, vous parlez de la Chine, ce qui m'intéresse c'est de savoir d'abord quel est son degré de retard par rapport aux États-Unis, mais surtout, en fait, elle est très inquiète de ce que font les Américains.
Elle regarde attentivement ce que font les Américains. Je pense que la Chine aussi, alors d'un point de vue militaire aussi, une conception assez similaire de l'emploi des moyens spatiaux pour moderniser ses forces, pour moderniser ses opérations. On le sait, hein, la Chine notamment se confronte aux États-Unis dans le Pacifique, à cette idée qu'il faut vraiment des systèmes qui empêchent l'accès des Américains aux eaux chinoises, etc. Ce qu'on appelle déni d'accès, etc. Et l'espace joue là-dedans un rôle très important. Et donc la Chine, de toute façon, considère que bien, l'espace sera effectivement un environnement qu'il faut contrôler et dans lequel il faut contrebattre les stratégies adverses, donc la stratégie américaine. Et les Américains considèrent de leur côté qu'effectivement, l'activité alors très forte de la Chine sur le spatial. Hein, la Chine lance environ par an 60 à 65 fusées, ce qui est assez étonnant. On a deux acteurs qui se distinguent. Hein, les États-Unis, c'est à peu près 150 tirs par an maintenant. Alors beaucoup Musk, mais pas que. Et puis la Chine, c'est plus de 60. Et c'est pas anodin. Après, on a la Russie qui est à 15 à peu près le tir par an. Et puis après, on lance quelques fois. Et donc la Chine, effectivement, est dans cette logique de confrontation dans l'espace parce que c'est, considère-t-elle, un environnement qu'il faut maîtriser, y compris pour sa sécurité militaire.
En tout cas, à vous entendre, ce qu'on comprend, Xavier Pascaut, je pense que j'en avais pas vraiment conscience, c'est que l'espace s'est complètement rapproché de la Terre. On en reparle.
Tu peux m'allumer, tu peux essayer, au moins vas-y, tends-moi la paix. Je serai à la hauteur, lune. Le soleil m'ennuie et j'attends la nuit. Cruelle, j'ai peur. Reviendras-tu toute une journée sans nouvelle lune? Mes yeux tous les soirs sont remplacés par blanc de lumière, le reflet d'un éclair de lune. Laisse-moi t'embrasser, juste un seul baiser, une caresse du bout des doigts. Oh, est-ce trop te demander la lune? Tout ce qui nous sépare, cet espace noir, 400 000 kilomètres à peine. J'en ai marre, la coupe est pleine lune.
Peux-tu m'éclairer? Quelle syllabe chantée sort de ta bouche?
La lune de Michel Jonas, vous l'aviez reconnue. Xavier Pascaut, vous êtes l'invité de cette émission autour de votre ouvrage La ruée vers l'espace, nouveaux enjeux géopolitiques. J'ai évoqué l'idée, c'est vraiment le sentiment qu'on a à vous écouter, que l'espace s'est terriblement rapproché de la Terre.
Oui, oui, c'est ce qui me frappe aussi en prenant du recul sur une histoire spatiale qui est assez récente finalement. Si on la compare à celle de l'humanité, ça n'a que 70 ans, ce qui est rien. Eh bien, on se rend compte que l'espace... c'est un reflet immédiat, je dirais, des changements qui interviennent dans les relations internationales, dans l'arrivée, la mise en place de nouveaux systèmes politiques. On a presque immédiatement dans l'espace la traduction. Et c'est ça qui, m'intéresse dans l'espace, de mon point de vue, c'est de voir que ce champ technologique où on a les technologies les plus élaborées, etc., eh bien, il y a de la politique dans une puce, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a vraiment de la politique qui arrive immédiatement dans les projets les plus technologiques. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de lire finalement cette signification dans ces programmes qui nous fascinent. Alors on voit des satellites par milliers, on est un petit peu sidéré par tout ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre ce recul pour voir en fait l'épaisseur qu'il y a derrière, qui en fait, je veux dire, une nouvelle expression des rapports de force internationaux.
Alors, on a parlé de la Chine, on va parler de l'Europe. Starlink, j'en reviens à Starlink. Starlink a littéralement changé la donne de la guerre d'Ukraine, Xavier Pascaut. Alors, vous allez nous expliquer comment, parce que peut-être que tout le monde n'est pas familier avec cela. Et puis, finalement, est-ce que nous, les Européens, nous sommes capables d'être aussi performants?
Oui, alors Starlink, vous avez raison de dire que ça a été... alors ça, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de publicité faite à ce sujet, mais dans le conflit ukrainien, alors c'est un peu un conflit comme on n'en avait jamais vécu, avec une très grande importance finalement de la maîtrise des technologies nouvelles, des technologies à la fois spatiales et numériques. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la Russie, dans ses premiers jours, a d'abord visé un système satellitaire qui était Viasat, qui était le système qu'utilisait... alors, pour le coup, un satellite situé à 36 000 km d'altitude sur l'orbite d'Idiot géostationnaire, qui était le système qu'utilisait le gouvernement ukrainien pour correspondre et établir ses communications. Donc là, il y a, par le biais d'une attaque informatique, l'ensemble des modems ou une bonne partie des modems qui fonctionnaient avec ce système ont été mis hors d'usage, avec l'idée que finalement, eh bien, quand vous mettiez hors d'usage ce système de télécommunication, vous aviez fait l'essentiel du chemin et après, l'Ukraine devait tomber comme un fruit mûr, quoi, finalement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, eh bien, Starlink est arrivé, à la demande des Ukrainiens, a distribué un ensemble de récepteurs, etc. Et surtout, on s'est aperçu que ce système qui est fait de milliers de satellites est quasiment indestructible.
Parce qu'en fait, il faut les détruire tous.
Ben, si il faudrait les détruire tous et il faudra vraiment avoir une action catastrophique dans l'espace pour le faire. Et là, on serait dans autre chose. Et par le fait même que Starlink était aussi beaucoup plus performant en termes de cybersécurité, etc., eh bien, les Ukrainiens se sont retrouvés avec des systèmes qui étaient beaucoup plus sûrs, beaucoup plus résistants finalement aux attaques et plus performants. Par le fait aussi que eh bien, ça permet du coup de contrôler des choses qui ont besoin de temps réel. Voilà, et donc on a vu à partir de là, sur cette base-là, eh bien, se développer par exemple l'usage des drones, etc., etc. Donc on a effectivement là un fait technologique majeur qui a changé un peu le visage finalement de ce conflit. Ça c'est le premier point. Donc il faut garder à l'esprit que Starlink aujourd'hui, ça représente... Ben, finalement, vous n'êtes jamais plus éloigné que 500 km d'un émetteur qui va vous permettre de maîtriser un petit peu votre système.
Alors, on poursuivra peut-être sur la militarisation et je le fais là maintenant en évoquant l'idée que l'élément très important pour la souveraineté des pays, c'est sa défense et on a bien compris hein, toute la connexion entre défense et spatiale. Est-ce que nous avons en Europe des budgets qui sont suffisants pour être en cohérence avec nos ambitions ? Je rappelle que les Européens dépensent, je parle toujours sous votre contrôle de Xavier Pascaud, 12 milliards d'euros et que les Américains en dépensent 70 milliards alors de dollars, mais le dollar, voilà, à ce degré-là, on n'est plus à chipoter sur...
Absolument. Voilà. Dont 30 à 35 milliards pour le militaire seulement. Les 12 milliards dont vous parlez, ça recouvre essentiellement les activités civiles, avec assez peu d'activités militaires. En France, on a 20 de satellites militaires, à peu près un peu moins. Les Américains vont en avoir près d'un millier, les Chinois vont en avoir plusieurs centaines, etc. Là, il faut bien comprendre, finalement, effectivement, on se pose la question aujourd'hui en Europe, hein, en assistant à ce qui est en train de se passer, d'un éventuel retard européen, mais qui doit correspondre aussi à un projet politique sous-jacent. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, alors comme en Chine, alors je commenterai moins sur la Chine, c'est un peu plus compliqué, mais aux États-Unis, c'est pas tant, il y a ce projet un peu d'omniscience, d'omniprésence, d'omnipotence. Et ça, c'est lié aux années 90, c'est la fin de la guerre froide, et les États-Unis se sont trouvés dans une situation dite d'hyperpuissance à l'époque. Donc il y a eu ce... Et ça, ça a beaucoup, beaucoup teinté la réflexion militaire, doctrinale, etc. On n'a pas eu ça en Europe. En Europe, on veut avoir une souveraineté, c'est-à-dire une capacité à agir comme on veut, quand on veut, avec les moyens qu'on se donne, sans qu'on ait cette ambition d'omnipotence, d'omniprésence, de domination un peu des rapports de force. La Chine a d'autres projets qui se rapprochent un peu de ceux des États-Unis. La Chine, effectivement, se situe un peu en paire stratégique quelque part, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Alors ensuite, on a bien le sentiment qu'effectivement, en Europe quand même, on a sans doute loupé quelques trains. Une politique spatiale aujourd'hui, finalement, c'est trois pieds. C'est une filière spatiale qui fonctionne bien avec un lancement, des lanceurs qui sont éventuellement réutilisables, peu coûteux, une filière de satellites qui sort ça comme des forts de T, etc., qui sont performants suffisamment, mais peu coûteux aussi. Donc ça existe aux États-Unis, ça existe en Chine, ça existe aussi en Europe, modulo et quelques différences. Mais on saura faire ça. Mais c'est pas suffisant. Il faut un autre pied qui est un autre pied industriel qui va valoriser la filière spatiale. Et c'est la tech aux États-Unis. C'est ces gens qui estiment qu'ils peuvent injecter de l'argent dans l'espace parce que ça devient un élément de leur propre réseau et ça va accroître leur rentabilité. Et il se trouve qu'en plus, en général, le spatial bénéficie d'injections d'argent public, donc l'argent attire l'argent et on a une sorte de convergence finalement d'intérêts privés et publics là. Alors ça existe aux États-Unis, hein. C'est donc Jeff Bezos typiquement, c'est l'image de ce type de... Il faut se rappeler que Musk vient de PayPal, enfin bon... En Chine, ça existe aussi. On a, alors aux caractéristiques chinoises, mais on a des grands acteurs de la tech. Quelque part, Alibaba, c'est un acteur du cloud mondial aujourd'hui, etc. Tencent, etc. En Europe, on n'a pas les grands acteurs de la tech. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on doit... Voilà, il faut qu'on ait notre propre récit, finalement. Et puis, le troisième pied, eh bien, c'est des gouvernements qui ont des grands projets et qui ont des moyens financiers importants. Mmh. Et donc, j'ai coutume de dire, finalement, les grands programmes spatiaux aujourd'hui soutenus par les budgets publics, c'est en gros, toujours le même ordre de grandeur, c'est jusqu'à 10 milliards d'euros sur 10 ans, quoi, qui vont amorcer ces pompes un peu, parce que bien la tech et l'espace veulent faire aussi du business. Donc, ils ont d'abord un soutien public qui amorce la pompe, qui rentabilise un peu leurs investissements premiers, et l'espoir de l'acteur public, c'est de devenir client de ces gens-là une fois qu'ils auront consolidé un business model. Alors, ce qui n'est pas du tout garanti, d'ailleurs. Au passage, on n'a jamais vraiment vu ça. Mais c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Donc, on a un gouvernement de ce type aux États-Unis, très clairement. La Chine, c'est un gouvernement qui a des idées politiques et qui a des moyens. En Europe, on a 27 États qui peuvent avoir des choses. Donc, on voit bien que nous, on est dans une configuration un peu différente. Ça explique le fait qu'on ait du coup des moyens différents et qui sont d'abord nationaux. Et là, je pense qu'aujourd'hui, le critère essentiel pour l'Europe, c'est sa souveraineté. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir accéder à l'espace, pas des centaines de fois par an, mais peut-être une dizaine de fois par an, quand on en a besoin, sans dépendre de SpaceX. On veut pouvoir télécommuniquer. Alors ça, c'est le projet de la Commission européenne, par exemple, ce qu'on appelle Iris Carré, qui a été décidé par Thierry Breton à l'époque, de manière souveraine, pas avec des dizaines de milliers de satellites, mais avec suffisamment de satellites pour qu'on garantisse des liens gouvernementaux sécurisés. Mmh. Donc, on est dans cette vision d'autonomie stratégique, ce qui nous distingue en termes quantitatifs.
Alors, cette vision d'autonomie stratégique, elle est de plus en plus indispensable. On le voit avec tout ce qui se passe depuis le 20 janvier, avec ce besoin pour l'Europe d'être autonome. Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté de faire vraiment bouger les choses ? C'est-à-dire, concrètement, on ne peut pas continuer aujourd'hui de dépendre du renseignement américain.
Absolument. Alors, du côté français, ça fait longtemps qu'on s'est dit ça. On s'est un petit peu particulier dans le concert européen. On a toujours eu, et d'ailleurs les Français sont les premiers à avoir eu un programme militaire indépendant. On a encore, et le dernier satellite militaire qui a été lancé, c'était CSO-3, donc composante spatiale optique. C'est les successeurs d'Helios, c'est des satellites militaires qui prennent des photos. Alors, on dépend aujourd'hui du renseignement américain, ça fait partie des échanges, mais on a quand même, que ce soit pour l'observation de la Terre, que ce soit pour l'interception des signaux, on a un programme qui s'appelle CERES, avec des satellites qui sont en orbite, qui interceptent les signaux, qui vont parfois être capables de dire, bien voilà, le système de défense antiaérien de tel pays, eh bien, il fonctionne de cette manière, ce qui permet de planifier des missions. Donc on a quand même, au niveau français, alors là, pour le coup, des capacités que les autres États membres de l'Union européenne n'ont pas. Mais ça reste quantitativement limité, bien évidemment, à la protection du territoire européen, à quelques opérations extérieures que nous, Français, faisons. Les autres pays n'ont pas ça parce qu'il n'y avait pas d'ambition militaire pour mener des opérations extérieures. Ça commence à changer. Là, l'Ukraine et surtout Trump modifient un peu les consciences là-dessus.
Alors, il y a encore plein de choses que j'aimerais qu'on aborde, mais on va manquer de temps. En particulier, bien sûr, la question du militaire. Quels sont les risques, finalement, d'une militarisation incontrôlée de l'espace avec une multiplication de satellites, espions ou inspecteurs? On assiste à un début, peut-être que c'est déjà là d'ailleurs, d'accroissement des tensions, Xavier Pascaud.
Oui, c'est ça qui est un peu nouveau dans le domaine militaire. Comme je disais, alors qu'on s'épargnait ces satellites quand il s'agissait de se surveiller mutuellement, finalement, on faisait des opérations qui allaient de l'espace vers la Terre. On regardait, on collectait des données, on les retransmettait vers la Terre. Donc, c'était espace vers la Terre. À partir du moment où les satellites sont devenus, par exemple, pour guider des munitions ou des missiles, où on utilise le GPS, eh bien là, ils prennent part aux dispositifs militaires eux-mêmes. Et là, ils deviennent des cibles. Et ça, c'est ça qui s'est passé. En 2007, la Chine a fait son premier test anti-satellite, le 11 janvier 2007, alors qui a été décrié au plan international parce que ça a créé énormément de débris. Et ça, c'est un autre problème qui est essentiel
aujourd'hui. Les débris spatiaux.
Les débris spatiaux, alors qu'ils soient civils, qu'ils soient volontaires, pas volontaires. Aujourd'hui, on est dans un contexte où ces débris se multiplient et font peser un risque sur les satellites eux-mêmes. Donc là, on a des risques plutôt que des menaces.
Parce que les satellites vont très vite.
Alors les satellites vont très vite. Un débris de 1 cm, qui peut être une petite vis, va traverser un satellite de part en part. C'est 28 000 km/h. Donc on est dans une débauche d'énergie, j'allais dire, une petite bille.
On les pose tranquillement posée au-dessus de nos têtes.
Alors ça, oui, voilà. Non, c'est en orbite basse, c'est 28 000 km/h. Et donc c'est une énergie folle. Et la difficulté, c'est que les Américains, par exemple, savent repérer des débris de plus de 10 cm. On pense qu'il y en a à peu près 40 000 aujourd'hui sur les altitudes utilisées. On sait qu'on peut se protéger peut-être contre des débris inférieurs à 1 cm. Il faut blinder les satellites, c'est quand même très très compliqué. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'entre 1 cm et 10 cm, il y a sans doute, pense-t-on, 1 million de débris ou un peu plus, qui ne sont ni repérables et contre lesquels on ne peut pas se protéger. Donc on est quand même, aujourd'hui, y compris pour les astronautes, le tir anti-satellite chinois de 2007 a obligé la station spatiale dans les années qui ont suivi à faire des manœuvres constantes d'évitement, parce que les débris, une fois qu'ils sont en l'air, ils ne retombent pas dans l'atmosphère aussi rapidement. Ils peuvent retomber s'ils sont à quelques centaines de kilomètres d'altitude, s'ils sont à 800 kilomètres comme c'était le cas, ben ils vont rester là des dizaines et des dizaines d'années. Donc on voit bien qu'on est en train, le globe est en train de gonfler avec les mauvaises choses. On pollue l'espace, ça c'est clair, on pollue l'espace. Donc ça c'est le risque. Et donc les Chinois ont fait ce test. Un an plus tard, les Américains ont un peu répondu, alors symboliquement, en disant qu'il fallait vraiment qu'ils nettoient un satellite, qu'ils le détruisent avant qu'il retombe sur Terre parce qu'il était dangereux. Ils ont fait cette destruction. Alors là, à 200 km, ça a créé beaucoup moins de débris parce qu'ils sont vite retombés dans l'atmosphère, mais quand même, ils ont fait ce geste symbolique. Et puis, l'Inde, en 2019, et la Russie, en 2021, ont fait les mêmes tests. Aujourd'hui, il y a un moratoire sur ces tests qui a été proposé par les États-Unis, un moratoire auquel la France adhère, par exemple, pour dire « on s'interdit de faire ce type de test désormais parce que ça pollue l'espace et c'est de l'intérêt de personne de le faire. » Mais il y a d'autres armes qui existent. Il y a l'arme cyber déjà, et puis il y a des armes dites à énergie dirigée, ça va être des lasers, ça va être des impulsions électromagnétiques. Et en 2024, toute cette affaire autour d'une éventuelle bombe atomique que les Russes auraient mise en orbite, si c'est le cas, d'ailleurs on n'en sait pas beaucoup sur cette affaire, si c'était le cas, ça contreviendrait au traité de 67.
Alors justement, voilà, vous y venez, vous êtes formidable parce que vous faites mes transitions. Il y a un projet de traité qui vise à l'interdiction de déployer des armes dans l'espace. Où est-ce qu'il en est, Xavier Pascaud, ce projet? Et quels sont vraiment les risques de confrontation dans l'espace? C'est du fantasme ou...
Non, ce n'est pas du fantasme. Enfin, il y a effectivement de plus en plus, je disais tout à l'heure, les technologies permettent de mettre en place des systèmes qui vont aller inspecter, qui vont se rapprocher d'autres. Alors, pour les inspecter, le cas échéant, pour faire quelque chose vers ces satellites. Donc là, on commence à avoir des idées que certains ont des arrière-pensées quand ils bougent leurs satellites. Donc ça veut dire qu'il faut que vous disposiez d'un système qui permette de surveiller ce qui se passe. D'ailleurs, ça, c'est pas évident. En Europe, on a des capacités autonomes, mais qui ne peuvent pas tout voir. Si les systèmes sont trop petits, un peu trop en altitude, une altitude trop élevée, ben, on ne les verra pas, etc. Or, on voit se multiplier ce genre de système à milliers. Ça, c'est une première chose. Et puis, il va bien falloir trouver une gouvernance mondiale, une sécurité collective dans l'espace. Là encore, on est tous interdépendants. La Chine et la Russie proposent un nouveau traité d'interdiction de placement d'armes en orbite. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'armes qui soient mises en orbite. Les Américains et les Européens se sont opposés depuis 2008, on a ce débat aujourd'hui, aux Nations Unies, et c'est pas du tout l'idée qu'ont les Américains et les Européens. D'abord, bon, ils expliquent qu'on ne sait pas ce qu'est une arme en orbite, parce qu'un satellite peut devenir une arme par destination. Ça reste un peu compliqué quand même de faire manœuvrer un satellite commercial, mais on peut imaginer la chose. C'est très difficile à vérifier, précisément parce qu'on n'a pas les systèmes nécessairement au sol qui permettent de voir tout ce qui se passe. Alors, ce n'est pas le premier traité qu'on signerait sans avoir les moyens de vraiment le vérifier. Et puis, la dernière chose... Eh bien, ce projet de traité proposé par les Chinois et les Russes n'empêcherait pas les tirs de missiles depuis le sol, qui sont en fait les seuls essais antisatellites qui aient été faits. Alors, les Américains et les Européens, ils sont plus sur l'idée de ne pas signer un traité. Les Américains n'aiment pas beaucoup les traités aujourd'hui.
On sait, oui.
Et donc, l'idée, c'est de parler d'un code de conduite qui s'intéresse au comportement plutôt qu'aux capacités. C'est ça qui est en discussion aux Nations Unies. C'est très compliqué. Il y a des petits progrès qui ont été faits récemment, mais ça reste encore loin.
Comportement par rapport aux capacités.
Alors,
finalement, ce sera un peu la fin de cette émission. Une des choses qui m'ont étonnée dans votre ouvrage, c'est que vous donnez finalement une large part à la coopération. Parce qu'on se dit toujours, est-ce que, guerre de l'espace, etc. Confrontation, coopération. Alors, finalement, il y a
Tout à fait, en fait. C'est ça qui fait la spécificité de l'espace. Quand vous êtes dans l'espace, notamment dans le programme Habité, on a vu avec la station spatiale, alors même qu'il y avait des tensions entre la Russie, les États-Unis, etc. Une fois que vous êtes dans l'espace, vous êtes d'abord un être humain. Vous êtes dans un milieu extrêmement hostile. Et là, on a effectivement le paradoxe de la coexistence, de rapports de force qui s'exacerbent, et en même temps, le maintien d'une conscience du fait que, avant d'être russe, avant d'être américain, avant d'être européen, vous êtes d'abord un être humain dans une situation précaire. Et donc ça reste encore aujourd'hui quelque chose de très puissant. Et pour les satellites eux-mêmes, je vous le disais tout à l'heure, on a cette idée que l'espace vous oblige à coopérer parce qu'il va bien falloir faire en sorte. Ça n'intéresse personne de voir se produire des collisions qui produisent des débris qui elles-mêmes vont produire d'autres catastrophes.
Merci Xavier Pascaud pour cet entretien absolument passionnant et votre livre qui ne l'est pas moins, La ruée vers l'espace, les nouveaux enjeux géopolitiques, qui est en plus magnifique écrit et vous racontez les choses. C'est un véritable récit. Je me suis régalée. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golciani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI. Restez à notre écoute dans quelques instants. Dimanche politique et tout de suite le journal.